la série que nous avons commencée depuis le début de l'année, sur le livre de Esdras. Esdras. Aujourd'hui, on va faire le cinquième chapitre. La dernière fois, on a fait, la fois dernière, on a fait le chapitre 4. On fera le chapitre 5 aujourd'hui, par la grâce de Dieu, qui n'a que 17 versets. Et ce chapitre 4, chapitre 5, nous allons peut-être le parler sur trois points. Le premier point va toucher le premier verset jusqu'au deuxième verset. Le deuxième point touchera du troisième jusqu'au cinquième verset. Et le troisième point et dernier point touchera du sixième jusqu'au dix-septième verset. Le chapitre 5 d'Esdras. Mais avant de rentrer dans le chapitre 5 d'Esdras, je voudrais nous rappeler ce qu'était dit dans le dernier verset du chapitre 4. Les enfants d'Israël, ils viennent de quitter la captivité en Babylone, ils rentrent chez eux avec une grande mission de reconstruire le temple, reconstruire Israël qui était détruite. Ils sont arrivés, ils ont commencé à faire les choses comme Dieu leur avait demandé de le faire. Ils ont restauré l'autel de l'Éternel, ils ont restauré l'adoration du vrai Dieu. Ils ont commencé à bâtir les fondements ou bien les fondations du temple. Mais écoutez ce que la Bible dit au verset 24 de chapitre 4. La Bible dit « Alors s'arrêta l'ouvrage de la main des dieux à Jérusalem et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. » Ils ont commencé, on l'a vu dans le quatrième chapitre, quand ils ont commencé à bâtir, il y a aussi l'opposition qui s'est levée. Et quand l'opposition s'est levée, ils étaient obligés d'arrêter. Ils ont tout interrompu, alors que c'était Dieu qui les a envoyés. Dieu leur a donné la mission. Mais là, malgré que ce soit de Dieu, l'opposition est venue. Malgré que ce soit de Dieu, l'interruption est arrivée. Et ils ont arrêté jusqu'à la deuxième année du roi Darius. Et ici, je ne sais pas pour toi, peut-être que toi aussi tu traverses une saison où ce que Dieu avait commencé dans ta vie a été interrompu. Quelque chose a commencé, mais quelque chose s'est arrêté. Tu t'es dit, mais je pensais que c'était Dieu. J'ai pensé que ça venait de Dieu. Comment ça se fait que ça ne marche pas? Comment ça se fait que ça s'est arrêté? Peut-être que tu es venu, mais que dans ton appel, ton service avec Dieu, tu sens qu'il y a comme si on a appuyé sur pause. Les choses ne marchent pas. Mais aujourd'hui, nous allons le voir que lorsque Dieu commence une œuvre, il l'achève toujours. Des fois, il y aura des interruptions. Il y aura des temps de pause. Mais pause, ça ne veut pas dire stop. C'est juste pause pour un temps. Mais ce que Dieu a commencé, il l'achève toujours. Et dans Philippiens chapitre 1, verset 6, la Bible nous le montre clairement. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus. Oui, le Dieu qui a commencé l'œuvre dans nos vies, il la rendra parfaite. Peu importe l'interruption ou les temps d'interruption, d'arrêt dans notre parcours, nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons lui faire confiance. Alors ouvrons nos Bibles, pour ceux qui l'ont. Dans Esdras chapitre 5. Esdras chapitre 5, nous allons lire du 1er jusqu'au 17e verset. Esdras 5. La Bible dit ce qui suit. Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda, à Jérusalem, au nom de Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shalathiel, et Josué, fils de Jotsodak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Dans ces temps même, Tatnaï, gouverneur de ses côtés du fleuve, Shethar, Boznaï et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ses murs? Ils leur dirent encore, Quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice? Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius jusqu'à la réception d'une lettre sur ces sujets. Voici maintenant la copie de la lettre envoyée au roi Darius par Titnaï, gouverneur du côté de fleuve, Shetsar, Boznaï et leurs collègues d'Afarsak demeurant de ces côtés de ce fleuve. Ils lui adressèrent un rapport ainsi conçu. Au roi Darius, salut. Que le roi sache que nous sommes allés dans la province de Juda, à la maison du grand Dieu. Elle s'est construite en pierre de taille, les bois se posent dans les murs, le travail marche rapidement et réussit entre les mains. Nous avons interrompu les anciens et nous les avons ainsi parlé. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs? Nous leur avons aussi demandé leur nom pour te les faire connaître et nous avons mis par écrit les noms des hommes qui sont allés à leur tête. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre. Et nous rebâtissons la maison qui avait été construite il y a des années. Un grand roi d'Israël avait bâti et achevé. Mais après que nos pères eurent irrité le Dieu des cieux, il les a livrés entre les mains de Nabucodonosor, roi de Babylone, le Chaldéen qui détruisit cette maison et amena les peuples captifs à Babylone. Toutefois, la première année de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus donna l'ordre de rebâtir cette maison de Dieu. Et même le roi Cyrus ôta du temple de Babylone les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem et transporté dans le temple de Babylone. Il le fit remettre au nommé Shetsbatsar qui l'établit gouverneur. Et il leur dit: prends ces ustensiles, va les déposer dans les temples de Jérusalem et que la maison des dieux soit rebâtie sur le lieu où elle était. C'est Shetsbatsar est donc venu et il a posé les fondements de la maison des dieux à Jérusalem. Depuis lors jusqu'à présent, elle s'est construite et elle n'est pas achevée. Maintenant, si le roi trouve bon que l'on fasse des recherches dans la maison des trésors du roi de Babylone pour voir s'il y a eu de la part du roi Cyrus un ordre donné pour la construction de cette maison de Dieu à Jérusalem, puis le roi nous transmette sa volonté sur ces sujets. Amen. Esdras chapitre 7. Je l'ai dit, pour étudier ces passages, nous allons les diviser en trois. Un et deux deuxième verset comme premier point. Troisième jusqu'au cinquième verset comme deuxième point. Et sixième jusqu'au 17e verset comme troisième point. Et à chacun de ces points, nous aurons de petites applications pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu voudrait qu'on apprenne de cette histoire et comment Dieu voudrait que nous puissions vivre après avoir appris et étudié sa parole. Passons au premier point. Et le premier point, je l'ai intitulé « Dieu envoie sa parole pour relever nos cœurs, pour réveiller nos cœurs ». Le contexte, ils étaient en train de bâtir ce que Dieu leur a demandé de bâtir, mais à un certain moment, à cause de l'opposition, ils ont dû arrêter. Quand le chantier est à l'arrêt, Dieu n'envoie pas d'abord des outils, Dieu n'envoie pas d'abord des ressources, Dieu n'envoie pas d'abord des gens pour travailler, mais Dieu envoie sa parole. Il veut les amener à bâtir, mais au lieu de leur envoyer de l'argent pour bâtir, au lieu de leur envoyer des ressources pour bâtir, Dieu envoie d'abord sa parole. Car avant de rebâtir ce qui est à l'extérieur, Dieu commence à rebâtir ce qui est à l'intérieur. Dans tout ce que nous faisons avec Dieu, ce qui se passe dans ce que nous faisons, l'œuvre que nous bâtissons avec Dieu, tout dépend de ce qui est d'abord à l'intérieur. Pourquoi ils ont arrêté? Parce qu'intérieurement, ils ont eu peur. On les a intimidés, on leur a dit, si vous continuez ce travail, on va vous arrêter. Et cela a détruit leur zèle, cela a détruit leur courage, et ils ont eu peur. Ils ont perdu la foi et ils ont arrêté de bâtir. Et maintenant, Dieu voudrait qu'ils recommencent à bâtir et Dieu va toucher ce qui était touché quand ils ont arrêté. l'intérieur. Et c'est la parole de Dieu qui vient d'abord renouveler l'intérieur avant de nous pousser à agir extérieurement. Dieu envoie sa parole avant de demander aux gens de commencer à bâtir. Au verset 1er jusqu'au 2e verset, la Bible dit ce qui suit. Agé le prophète et Zacharie fils d'Ido le prophète, et ils prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shalathiel, et Josué, fils de Jotsadek, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison. Ces événements se déroulent 16 ans après l'arrêt. Donc entre le verset 24 du chapitre 4 et le verset 1 du chapitre 5, 16 ans se sont écoulés. La Bible dit... Ils ont arrêté la construction jusqu'à la deuxième année du roi Darius. Et quand nous entendons parler de ça, quand nous lisons, nous ne comprenons pas qu'il y a eu beaucoup de temps qui s'était écoulé. Ils sont venus avec une mission, mais arrivés là-bas, on les a interrompus. Et ceci, cette interruption a pris du temps. Et avant d'aller très loin, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le temps que l'interruption prend, ça ne veut pas dire que Dieu a arrêté de travailler. Juste parce que ça traîne. Les choses ne changent pas. Les choses ne marchent pas. Ça traîne. La situation ne change pas. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train de travailler. Ces gens, peut-être, ils ont même oublié la mission. 16 ans après, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 16 ans? Quand ils n'étaient pas en train de construire, pour comprendre bien ce qui se passe dans ce chapitre 4, chapitre 5, il faut revoir le livre des Agé et le livre de Zacharie. Parce que Dieu a envoyé deux prophètes, Agé et Zacharie. Donc ce qui est écrit dans les livres des Agé et des Zacharie, c'était à cette époque, c'était le message que Dieu a envoyé à ce peuple qui était en train de bâtir. Et qu'est-ce qui se passe dans Agé chapitre 1, versets 1 à 2? La Bible dit ce qui suit. La seconde année du roi Darius. On revient, chapitre 24, des Esdras 4. La Bible dit, ils ont interrompu le travail jusqu'à la deuxième année du roi Darius. On est en train de me suivre? Et Agé commence sa prophétie, la Bible disant, la deuxième année du roi Darius, quand le travail commence, pour rebâtir, Dieu envoie Agé pour prophétiser, pour donner le message d'encouragement. Et Agé, il vient avec ses messages. Écoutez ce qu'il dit. La parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète à Zorobabel, fils de Salathiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Zetsodak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Ces gens, pendant 16 ans, ils se sont tus parce qu'ils se sont dit, le temps n'est pas encore arrivé. Il n'est pas temps de bâtir la maison de l'Éternel. Et quand ils se sont dit qu'il n'était pas temps de rebâtir la maison de l'Éternel, ils ont commencé à faire autre chose. Écoutez, lorsque nous arrêtons à faire ce que Dieu nous demande de faire, nous nous trouvons quelque chose d'autre à faire. Quand nous cessons de faire ce que Dieu nous donne de faire, nous commençons à faire ce que Dieu ne nous demande pas de faire. Et quand nous faisons ce que Dieu ne nous demande pas de faire, nous trouvons toujours des justifications pour ne pas faire ce que Dieu attend de nous. Et on peut le dire comme ces gens, non, il n'est pas encore temps. Juste parce qu'il y a opposition, ça ne veut pas dire que ce n'est pas le temps de Dieu. Juste parce que ça n'a pas marché quand on a essayé, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas dedans. Je vais dire comme le West Africain, il y a Dieu dedans. Même quand ça ne marche pas, même quand ça ne promet pas, il y a Dieu dedans. Et ces gens se sont mis à faire tout ce qu'ils pouvaient faire, mais pas ce que Dieu attendait d'eux. Et ils se disaient, non, il n'est pas encore temps. Il n'est pas temps de bâtir la maison de l'Éternel. La Bible dit que les enfants d'Israël, après l'opposition, ils se sont dit, non, non, nous allons faire autre chose. Et si vous continuez à relire toute la suite des Agé, la Bible dit que ces gens, ils se sont mis à bâtir leur maison. à se faire des choses intéressantes pour eux. Et Agé, il vient avec la parole du Seigneur. Il dit, comment ça se fait que vous êtes là occupés à bâtir des belles maisons pour vous, alors que Dieu lui-même n'a pas de maison ? Vous êtes en train de faire des choses pour votre bien, mais ce que l'Éternel attend de vous, vous ne les faites pas. Et les prophètes commencent à expliquer ce qu'ils étaient en train de vivre. Ils disent, c'est pourquoi au fait, vous êtes en train de s'aimer, mais vous récoltez peu. Il dit, c'est pourquoi vous êtes en train de faire des choses mais qui ne produisent pas. Pourquoi ? Parce que vous avez cessé de faire ce que Dieu vous a donné de faire. Et ici, je ne vais pas le confirmer, mais je vais dire ceci. Des fois, il y a des choses qui ne marchent pas parce que nous ne sommes pas en train de faire ce que Dieu attend de nous. Et le prophète, il vient d'abord pour les ramener, à prendre conscience de jusqu'où ils sont allés, pour qu'ils prennent conscience de ce que Dieu attend d'eux. Et lorsqu'ils ont reçu la parole de Dieu, la Bible dit qu'ils se sont levés. Ils ont commencé à agir. Et au verset 13 jusqu'au verset 15 de Agé, chapitre 1er, écoutez le contenu de la parole de Dieu. La Bible dit, « Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel. » Il dit, c'est l'Éternel qui parle, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. »« Je suis avec vous. » L'Éternel réveilla l'esprit des Zorobabel, fils de Salatiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsoda, comme des souverains sacrificateurs, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel. Lorsque la parole de Dieu arrive, elle touche d'abord le cœur. Le cœur qui était endormi, la Bible dit, il a réveillé les esprits de ces gens. Et il commence par quoi ? Il dit, je suis avec vous. Il le rassure de sa présence. Il y a opposition, mais il rassure qu'il est là. Souvent, quand on rencontre opposition, on pense qu'il n'est pas là. On se dit, Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a laissés. Mais Dieu, il commence par dire, écoutez, je suis là. Ces choses ne marchent pas, rien ne marche, mais je ne suis pas loin. Je suis avec vous. Et quand la parole de Dieu vient, elle réveille les esprits de ces gens. Et quand les esprits de ces gens se sont réveillés, la Bible dit qu'ils se sont mis à l'action. Ils ont commencé à travailler. Lorsque la parole de Dieu vient, elle touche nos cœurs. Et quand nos cœurs sont touchés, c'est l'action qui doit suivre. Toutes les fois que nous recevons la parole de Dieu, il faut que le cœur soit touché quelque part. Et quand le cœur est touché, les choses ne restent pas de la même manière. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change dans ce qu'on fait. Amen. Et ces gens, lorsqu'ils ont reçu la parole de Dieu, la Bible dit, ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, leur Dieu. Le contexte n'a pas changé. Les opposants ne sont pas morts. L'opposition demeure. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens se mettent à l'œuvre ? C'est parce que la parole de Dieu les a rassurés. Et ici, j'aimerais dire, des fois, quand nous avons peur d'avancer, cherchons la parole de Dieu. Parce que c'est celle-ci qui va nous rassurer dans le parcours, dans ce que nous vivons et dans ce que nous faisons. Cette semaine, j'ai reçu quelques personnes de l'église. Ils sont haïtiens, alors qu'on était en train de prier. On priait pour Haïti. On se dit, c'est vrai que la souffrance a perduré. Ça fait des années qu'on parle d'Haïti, qu'on parle de la souffrance qu'il y a là-bas. Il y a même des gens qui ont abandonné. Ils ne veulent même pas croire. Ils se disent, et même d'autres, quand ils parlent de cette situation, ils disent, mais ça a toujours été comme ça. Frère, ça n'a pas toujours été comme ça. Juste parce que ça dure, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer. Et la parole de Dieu vient pour nous rassurer et nous dire, ça peut changer encore. Nous pouvons toujours espérer. Cette parole, quand elle vient, elle va nous pousser à prier encore et à travailler encore pour que les choses changent. Et moi, je le crois, la souffrance aura une fin. Bien que ça tarde, ça arrivera et ça changera. La parole de Dieu arrive et les rassure. Et la Bible dit, leurs esprits furent réveillés. Et quand la parole de Dieu arrive, elle réveille quelque chose à nous. Il y a des choses que nous sommes appelés à faire avec Dieu. Mais il faut une parole de la part de Dieu pour nous réveiller et nous pousser à le faire. Pourquoi la parole de Dieu ? Parce que l'arrêt du chantier extérieur est souvent le reflet d'un arrêt à l'intérieur. À l'intérieur, on est fatigué. On se dit, je ne veux plus continuer. À l'intérieur, il n'y a plus de zèle. On se dit, je ne peux plus le faire. En l'intérieur, on est peut-être déçu. On se dit, je ne peux pas le faire. Et Dieu envoie cette parole pour rassurer ce qui est à l'intérieur, pour qu'enfin nous puissions faire ce que nous pouvons faire à l'extérieur. Et au-delà de réveiller nos cœurs, la parole de Dieu vient aussi pour restaurer l'espérance et le courage. Au-delà de réveiller les esprits, elle vient aussi pour réveiller, pour restaurer l'espoir et le courage. Dans Agé chapitre 2, verset 4, la Bible dit ce qui suit. Il dit « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Pourquoi ? Car je suis avec vous, dit l'Éternel. Pourquoi travailler ? Parce que je suis avec vous. » Chrétiens, souvent, nous pensons que Dieu fera tout à notre place. Il y a des choses que Dieu fera, il y a des choses que nous ferons. Et il dit, moi je suis avec vous, mais vous travaillez. Il ne dit pas parce que je suis avec vous, croisez les bras et attendez. Vous allez croiser les bras, vous allez prier. Vous allez croiser les bras, vous allez prier. Et après vous allez dire, mais Dieu, tu es où ? Mais Dieu, il a dit, je suis là, travaille. Il dit, travaillez parce que je suis avec vous. Écoutez, la présence de Dieu nous rassure dans ce que nous devons faire. La présence de Dieu nous donne l'espérance dans ce que nous pouvons faire. Ce que nous devons faire peut changer les choses. La présence de Dieu, elle vient restaurer le courage qui n'était pas encore. Ces gens, ils ont abandonné le travail parce qu'ils avaient peur. Ils étaient découragés. Mais la parole de Dieu, il dit, non, non, je suis avec vous. Travailler. Et mon pasteur, définissant le courage, il dit, le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. Le courage, c'est avancer malgré la peur. Je tremble, mais j'avance quand même. Je ne vois rien changer, mais j'avance quand même. Quand cette parole vient, elle te donne le courage d'avancer, même en tremblant. Même quand tu ne vois rien, cette parole vient pour te donner du courage, pour que tu saches que tu lorsque tu es en train de travailler, il y a Dieu qui est avec toi. Et il leur dit, dans Zacharie, plus tard, au chapitre 4, verset 6, il est dit, même quand vous travaillez, il dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel qui s'adressait à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Dieu te demande de travailler, mais il dit, ne fais pas confiance seulement à ce que toi tu fais. Alors que tu travailles, sache que moi je serai en train d'agir par mon esprit. Il y a des choses que l'esprit de Dieu fait parce que nous acceptons d'agir. Il y a des choses que nous ne vivrons pas, que Dieu est en train de faire parce que nous n'acceptons pas d'agir. Le problème, c'est parce qu'il y a deux extrêmes. Premier extrême, c'est ceux-là qui croisent les bras et veulent que Dieu fasse tout. Le deuxième extrême, c'est ceux-là qui travaillent et pensent que Dieu ne fait rien. Et Dieu, il dit, faites, mais c'est moi et par mon esprit que vous y arriverez. Ce n'est pas parce que vous êtes fort, ce n'est pas parce que vous êtes intelligent, ce n'est pas parce que vous savez faire que les choses vont marcher, mais c'est parce que mon esprit va le rendre possible. Il veut nous ramener à l'équilibre. J'agis parce que Dieu est en train de travailler. C'est moi que vous voyez, mais il y a un Dieu qui est en train d'agir. C'est pourquoi lui-même, il dit plus tard, si Dieu ne bâtit pas une maison, ceux qui le bâtissent, ils travaillent en vain. Donc Dieu est en train de bâtir, mais il y a des gens qui sont en train de travailler. Si nous ne faisons pas, il y a des choses que nous ne vivrons pas. Il dit, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par votre force, mais c'est par mon esprit que les choses vont se faire. Et encore, il continue à les encourager même dans Zacharie chapitre 4, verset 10. Il dit, ne méprisez pas les faibles commencements. C'est vrai que ça sera petit quand vous allez commencer à travailler. C'est vrai que peut-être ça ne va pas représenter grande chose devant les yeux des gens, mais travaillez quand même, même Dieu commence petit. Ne méprisez pas les faibles commencements. Vous allez vous dire, aujourd'hui on a essayé de bâtir, mais ça ne représente pas grand-chose. Mais pour Dieu, même le peu qu'on fait avec lui, c'est quelque chose de grand. Parce que Dieu, il commence petit. Aujourd'hui, on a autour de 8 milliards de personnes sur la terre, mais Dieu a commencé avec 2. Parce qu'il faut commencer quelque part. Les problèmes, nous voulons commencer grand. Quand ce n'est pas grand, ce n'est pas Dieu. C'est faux. C'est vrai que ça deviendra grand, mais quand ça commence des fois petit. J'ai un ami qui blaguait, il disait, vous savez pourquoi Adam est tombé? Parce qu'il est né grand. Quand on est là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a que le choix de descendre. Mais quand on est là-bas, le choix c'est de croître petit à petit et de grandir. Accepter de commencer petit. Et il dit, travaillez, mais en travaillant, n'oubliez pas qu'on peut commencer petit pour bien finir plus tard. Pour nous aujourd'hui, que ta vie spirituelle peut-être semble bloquée, ou quand ton appel semble en veille, Dieu envoie sa parole pour rallumer, pour réveiller quelque chose. Le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu, les prédications ou d'autres manières pour parler à nos cœurs et nous réveiller. Et Dieu veut nous dire aujourd'hui, ne restez pas paralysés, lève-toi, je suis avec toi. Travaille, travaille. Et la question que je te pose, qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui? À quoi Dieu t'a appelé que tu n'es fait plus parce que tu as eu peur? Il dit, lève-toi et travaille. Deuxième point. C'est bon? Deuxième point. Le réveil spirituel demande une action concrète malgré l'opposition. Versets 3 à 5. Et avant de lire, j'aimerais dire, l'appel de Dieu ne s'arrête pas à l'émotion. Quand la parole de Dieu nous touche, ce n'est pas seulement pour des émotions, mais elle attend une action. La parole de Dieu, elle appelle à l'action. Et dès que tu décides d'obéir, attends-toi à de l'opposition. Lorsque tu décides de te lever, même aujourd'hui quand je te parle, quand tu vas recevoir cette parole et tu décides de te mettre à l'œuvre, écoute, lorsque tu vas commencer à agir, l'opposition va se relever aussi. L'opposition s'est tue parce que tu t'es tue. L'opposition s'est arrêtée parce que tu ne faisais plus rien. Et maintenant, quand tu vas te lever pour commencer à agir, l'opposition va se lever aussi. Mais la parole de Dieu, quand elle vient, elle nous pousse à agir. Malgré l'opposition qui va venir. Au verset 3, la Bible dit, dans ce même temps, Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shelsar, Boznaï et leurs collègues, ils vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs? Et leur dirent encore, quels sont les noms des gens qui sont en train de construire? Ils sont venus pour les intimider et commencer à questionner tout ce qu'ils ont été en train de faire. Ils ont reçu la parole des dieux a réveillé leurs esprits. Ils se sont mis à l'œuvre, mais aussi ceux-là qui veulent s'opposer au travail se sont aussi levés. Et écoutez, chers amis, l'opposition surgit toujours quand l'œuvre de Dieu avance. Toutes les fois que l'œuvre de Dieu commence et sera en train d'avancer, l'opposition viendra toujours. Ne soyez pas surpris. J'aimerais le dire autrement. Des fois, l'opposition, c'est la preuve qu'on est avec Dieu. Ne pleurez pas en disant, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Mais dites peut-être, merci Seigneur. Je sens que tu es là. Je sens que tu es là. Dès qu'il commence, les adversaires reviennent aussi pour intimider, pour questionner et pour essayer d'arrêter l'œuvre. L'ennemi sait que ceux qui s'élèvent pour Dieu sont dangereux pour ses plans à lui. Si tu décides de t'élever pour Dieu, tu deviens dangereux pour les plans de l'ennemi. C'est pourquoi il fera tout pour t'arrêter et t'empêcher de continuer. Mais dans tout cela, la Bible dit, Dieu veillait sur ses serviteurs. Au verset 5, la Bible dit, mais l'œil de leur Dieu était sur eux. Mais l'œil de Dieu veillait sur eux. En français, on définit mais, M-A-I-S. comme étant une conjonction qui sert généralement à marquer une opposition, une exception ou une différence. Et l'opposition vient, commence à questionner ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne veulent pas que vous continuiez. Mais, le mais vient pour s'opposer à tout ce que l'opposition fait. Le diable ne voudrait pas que tu avances, mais le diable t'attaque de partout, mais le combat devient dur, mais tu ne crois plus, tu ne sais plus comment tu vas avancer, mais le diable pense avoir l'autorité sur toi et pense gagner, mais l'œil de l'Éternel veille sur eux. Quand Dieu veille, c'est pour nous délivrer du mal. Ils vont faire ce qu'ils veulent, mais ils ne savent pas qu'il y a un mais. Et c'est ce mais-là qui fait toute la différence. Cette fois-ci, en fait, dernièrement, vous nous avez arrêtés parce qu'on a cessé de croire. Mais cette fois-ci, on sait. On n'est pas seul. Car il y a l'œil de Dieu qui veille sur nous. Dieu n'a pas empêché les attaques, mais il a protégé leur travail, il a soutenu leur courage et il a encadré leur persévérance. Dieu ne nous promet pas une vie sans combat, mais Dieu nous promet sa présence dans le combat. Dieu ne nous promet pas une vie sans opposition, mais il nous promet sa présence malgré l'opposition. Que l'opposition ne t'efface pas douter de la présence de Dieu dans ce que tu es en train de faire. Car lorsqu'il touche nos esprits, il nous pousse à agir malgré tout ce qui peut venir. Et même dans le psaume, chapitre 32, verset 8, la Bible dit, c'est qui suit, c'est Dieu qui parle. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Je t'enverrai ta ma parole, tu la recevras, elle aura ses effets sur toi. Mais en attendant, j'aurai aussi mes regards sur toi. Tu ne seras pas seul, tu ne seras pas seul. Le regard. Quand je ne vois pas mon fils, je m'inquiète. Mais tant que je peux le voir, je sais qu'il est en sécurité. Et des fois, quand il joue, on est au parc, je vais me rassurer que je le vois. Et quand je le vois, et des fois, quand il se perd avec les enfants, il va chercher le regard du père. Et quand il va fixer le regard, il se dit, je peux continuer. Le père est là. Et Dieu, il dit, j'envoie la parole, je t'instruis. Mais il y a aussi mon regard qui est sur toi. Alors, ne soyons pas surpris. L'adversité viendra. Et dans tout ça, notre sécurité n'est pas dans l'absence des problèmes, mais dans la certitude de la présence de Dieu. Notre sécurité n'est pas dans l'absence des problèmes, mais dans la présence de Dieu. On est en sécurité quand dans la présence de Dieu. Troisième point, nous allons prier. Quand nous honorons Dieu, il honore notre persévérance. Quand nous honorons Dieu, il honore notre persévérance. Dieu n'oublie jamais ceux qui persévèrent dans son œuvre. Ta fidélité discrète aujourd'hui prépare les victoires visibles de demain. Tu es fidèle à Dieu dans le silence, dans le calme, personne ne voit. Mais ça te prépare à des victoires qui seront visibles demain. C'est ce qu'on vit dans le silence, dans le secret avec Dieu qui se manifeste plus tard en public avec les hommes. Verset 6 jusqu'à 17, je ne vais pas tout lire, je peux peut-être les résumer. Les ennemis, ils écrivent une lettre au roi Darius pour l'informer de la reconstruction du temple. Mais au lieu de les arrêter directement, Darius, il demande de faire une recherche dans les archives royales ce qui aboutirait finalement, on le verra dans le chapitre 6, à la confirmation et de l'autorisation qui avait été donnée. Donc les ennemis se disent, on ne sait pas les arrêter ici, on change des tactiques. Quand ils n'ont pas pu les décourager, les ennemis ont cherché à faire stopper leur œuvre légalement. On dit, on va utiliser maintenant la loi. On va aller vers le roi et on verra s'ils vont continuer. Ils envoient une lettre au roi pour questionner la légitimité du projet. Est-ce que c'est un projet légitime, roi? Est-ce que tu permets ce genre de choses? Est-ce qu'ils sont permis de faire et d'agir de cette manière? Leur but est de leur faire arrêter l'œuvre par des moyens administratifs. Ils se disent, par la violence, on n'a pas pu, mais administrativement, on pourra peut-être. Dans notre vie aussi, parfois l'opposition prend la forme de la procédure, elle prend la forme de retard, elle prend la forme des complications. Vous le savez bien, on est en train de vouloir vendre cet endroit et acheter plus grand. Il y a beaucoup de procédures. Et des fois, les procédures peuvent nous empêcher de continuer. On peut se dire, mais bon, c'est chez nous, on ne doit rien, personne, on peut rester ici. On se dit, il faut voir la mairie, il faut parler avec l'urbanisation, l'urbanisme, il faut voir, il faut faire ces choses. Quand tu vois tout ça, tu te dis, ah, est-ce qu'on arrête? Ce matin même, avant de quitter, quand j'ai quitté chez moi, j'ai reçu un message venant de Hugo pour que je lui donne des clés pour qu'il aille chercher dans les archives d'autres dossiers qui vont nous aider à clarifier combien de nombre de parkings on a pour qu'on soit en mesure de bien vendre. Quand on voit un peu tout ça, il a appelé la mairie pour voir est-ce qu'on peut avoir le permis de construire pour ce qui a été fait avant. Et la mairie dit, on ne peut pas vous le donner si vous n'avez pas de numéro. Il faut chercher un numéro. On se dit, mais on arrête. On reste chez nous. Écoutez, des fois, l'opposition vient sous forme des procédures. Ça vient pour vous fatiguer et pour vous empêcher d'aller et de continuer. Quand, même quand ça traîne, même quand ça donne l'impression que ça n'avance pas, que ça ne bouge pas, ne lâchez pas encore. Parce que même dans ce genre de choses, Dieu est en train de travailler. J'aime quand mon pasteur il dit, Dieu peut travailler pour toi sans toi. Ces gens, ils sont en train de travailler, mais ils ne savent pas que Dieu est en train de travailler pour eux avec le roi là-bas. Dieu n'a pas besoin de toi pour travailler pour toi. Des fois, il peut faire des choses pour toi. Sans toi, dans notre vie, il y a des choses qui peuvent venir, qui peuvent retarder. Mais écoutez ce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 54, au verset 17. Il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. La Bible ne dit pas que certaines armes forgées contre toi seront sans effet. La Bible ne dit pas la plupart d'armes forgées contre toi seront sans effet. La Bible dit toute arme, peu importe l'arme, peu importe la manière, peu importe ce qu'ils veulent faire, quand ils le font contre toi, ça sera sans effet. La Bible dit ils seront en train de forger l'arme et l'arme sera déjà sans effet, même avant qu'ils l'utilisent. Ils se sont dit, on va aller vers le roi et on dira au roi, ces gens ne doivent pas faire ces choses, mais ils ne savent pas que le Dieu qui les a envoyés était déjà en train de parler au roi pour eux. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et cette promesse n'est pas donnée à tout le monde. Il dit, voici le héritage des serviteurs de l'Éternel. De ceux-là qui sont en train de faire, pas pour eux, mais pour l'Éternel. Rassure-toi que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas d'abord pour toi. Quand nous disons, lève-toi, bâtis, continue à agir, ce n'est pas d'abord pour toi, c'est pour l'Éternel. Lorsque tu les fais pour l'Éternel, alors l'Éternel va rassurer tes derrières. Est-ce que tu les fais pour l'Éternel? Est-ce que tu les fais pour l'Éternel? Est-ce que tu les fais pour l'Éternel? Dieu n'a pas terminé son œuvre dans ta vie. Même le chantier qui a été arrêté, sa parole aujourd'hui te réveille, te relève et te pousse à recommencer. Persévère, bâtis avec foi et sache que l'œil de Dieu est sur toi pour achever ce qu'il a commencé. Et si tu veux aujourd'hui dire à Dieu, Seigneur, reprends le travail que tu avais déjà commencé. Si tu veux lui dire, Seigneur, je t'ai confié, je t'ai fait confiance, continue ce que tu as commencé à faire. Alors nous avons incliné nos têtes dans la présence de Dieu et lui dire, Seigneur, c'est vrai, il y a eu un arrêt. C'est vrai, les choses n'avançaient pas telles que j'aurais voulu que ça avance. Mais en ce début d'après-midi, je t'invite de faire ce que toi seul peux faire. Je t'invite de finir ce que tu as commencé de faire. Je t'invite de faire...